Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente ou qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. Et voici d'abord le père Roger Willem qui va vous présenter son premier ouvrage.
Je propose la lecture du livre de Marie de Henzel, « Croire aux forces de l'esprit ». C'est un récit paru aux éditions Fayard, Versilio, au mois de juillet 2016. Marie de Henzel est psychologue, psychothérapeute et conférencière. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « La mort intime », préfacé par François Mitterrand. Et en tant que chargée de mission auprès du ministère de la Santé, elle a remis deux rapports qui ont contribué à l'évolution des pratiques d'accompagnement de fin de vie. Alors ce livre est particulièrement intéressant, parce qu'il nous fait connaître un François Mitterrand que nous ignorons complètement. C'était un homme d'une grande intériorité, qui avait le sens de l'esprit et le sens de la vie, et qui se donnait les moyens d'approfondir ce sens en se recueillant souvent. Lorsqu'il allait dans les rues de Paris, il s'arrêtait souvent dans une église pour prendre le temps de méditer. Et je me souviens l'avoir rencontré à Thésée, dans l'église de la Réconciliation, en train de prier seul, près de cette roche qu'il aimait fréquenter, la roche de Solutré, chaque lundi de Pentecôte, avec ses amis. C'était un événement dans sa vie, un événement spirituel qui était très important pour lui, mais aussi pour ses compagnons. Il y avait une élévation, un éveil de l'esprit, et il y avait une amitié qui se solidifiait dans ces rencontres avec la certitude qu'un esprit nous était donné un lundi de Pentecôte. Voilà ce que je retiens de ce livre qui m'a permis de passer un bon dimanche en compagnie de Marie de Henzel. C'est une femme qui a un grand sens de la spiritualité et de la foi, mais une foi originale, une foi qui nous libère de certains a priori et de certains préjugés, de certaines routines, et qui nous fait entrer dans une relation d'amour, une relation marquée par la créativité, l'émerveillement et le courage de vivre. Ce livre mérite d'être connu et d'être apprécié.
Je vous présente à mon tour un premier livre dont la bibliothèque diocésaine vient de faire l'acquisition. Il s'agit de « 50 ans après Vatican II, que reste-t-il à mettre en œuvre ?» C'est un livre paru aux éditions du Cerf en octobre 2014. Pas tout neuf, mais toujours d'une brûlante actualité. Son auteur est Gilles Routier, qui est doyen et professeur d'ecclésiologie et de théologie pratique à la faculté de théologie et sciences religieuses à l'université Laval, au Québec. C'est un spécialiste reconnu de Vatican II, autant que de son histoire, de son contenu, que de sa réception et de l'impact que ce concile a eu depuis sur l'Église catholique. Le 50e anniversaire de Vatican II fut l'occasion de dresser un bilan pour s'assurer que ce qui devait être, comme disait le pape Jean-Paul II, la boussole de l'Église catholique, en est toujours le guide, même pour les nouvelles générations qui ne l'ont pas connu. C'est donc ce que fait notre auteur en récapitulant l'histoire de la réception du Concile au fil des générations successives. Il nous montre qu'il y eut toujours des tensions et des difficultés à cause des interprétations différentes qui furent faites des textes de Vatican II et du rapport à la tradition qui rencontra des positions divergentes. Et il conduit sa réflexion jusqu'à aujourd'hui, où il constate la distance de plus en plus grande qui sépare Vatican II des lecteurs contemporains, formés dans une autre culture que celle qui a façonné la période conciliaire. Il pense donc que l'Église catholique s'est fait quelque part prendre au piège de ceux qui se désignent comme traditionnalistes et qui ont organisé un blocage stratégique des développements appelés par la mise en œuvre de Vatican II. Alors, dit-il, que la notion de tradition elle-même n'a jamais vraiment été clarifiée. L'ambition de l'auteur est donc immense, puisqu'il souhaite que soit repensée maintenant l'interprétation fondamentale de ce concile. Pour arriver à le faire passer encore dans la vie de l'Église et pour nous l'approprier aujourd'hui. Ce qui est difficile, puisque les nouvelles générations ne perçoivent même plus l'utilité de ce concile et ne voient pas très bien ce qu'elles pourraient en faire, dit-il. Gilles Routier veut donc approfondir d'urgence ces questions. En quoi le concile Vatican II peut-il servir la vie de l'Église aujourd'hui ? Est-ce que ce concile peut être encore le concile du XXIe siècle ? Et que peut-on en attendre, surtout que peut en attendre la jeune génération ? L'auteur cite bien sûr de nombreux textes conciliaires, dont par exemple celui-ci tiré de Gaudium et Spes. Pour mener à bien cette tâche, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. » Fin de citation donc de Gaudium et Spes. Et c'est pourquoi l'auteur reprend ce texte en disant que dans cet esprit d'aggiornamento, le concile se présente encore comme un avenir pour l'Église, en ce sens que ses grandes intuitions qui touchent aux attitudes, aux pratiques et aux institutions n'ont pas encore été entièrement mises en œuvre, et que l'essentiel reste encore à faire, à condition, bien sûr, que l'on fasse l'effort de se réapproprier ces textes fondateurs. Reste que pour que son rapport au monde moderne soit fructueux, l'Église a besoin de crédibilité. Et je le cite, et il cite en fait encore un passage de Lumen Gentium, « L'Église sait fort bien qu'au cours de sa longue histoire, parmi les membres clercs et laïcs, il n'en manque pas qui se sont montrés infidèles à l'Esprit de Dieu. » Fin de citation, et c'est pourquoi Gilles Routier montre que toute véritable évangélisation ne peut se faire qu'en lien avec une continuelle réforme des consciences et réforme de l'Église. Son renouveau, ses conversions, font partie du message apporté au monde pour lui assurer une crédibilité. Et voici encore une citation de Lumen Gentium. « L'Église, notre mère, ne cesse d'exhorter ses fils à se purifier et à se renouveler pour que le signe du Christ brille avec plus d'éclat sur le visage de l'Église. » Et pour terminer, je vous lis quelques mots de la conclusion de l'auteur. Voici ce qu'il dit. « Comme au moment du Concile, nous sommes dans l'obligation de nous interroger sur la manière de proposer la doctrine chrétienne aujourd'hui. Toutefois, il faudrait arriver à le faire avec autant de liberté, de capacité d'invention, non seulement si l'on veut être à la hauteur des défis du présent, mais si l'on veut être de bons héritiers de Vatican II. » Voilà, ce livre fait donc partie sans aucun doute de ceux qui peuvent nous aider à renouveler sans cesse la vie de l'Église pour qu'elle rejoigne son époque avec efficacité. Je vous en rappelle le titre. 50 ans après Vatican II, que reste-t-il à mettre en œuvre ? De Gilles Routier, un livre paru au CERF en octobre 2014, mais que vous pouvez trouver à la bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant à Chartres.
Bye. la folie. Mais osa mander ma vie, quand je salue mon amour.
L'esprit du livre, Catherine Mann et le père Roger Willem. Et tout de suite, le père Roger Willem vous présente le guide des égarés de Jean d'Ormesson.
Nous sommes des égarés, les uns les autres, sur cette terre. C'est cette terre qui nous le signale. Il faut prendre conscience de cette situation. Nous sommes parfois perdus là où nous vivons. Nous manquons de repères. Nous manquons d'une voix qui nous indique où aller. Alors nous errons. Nous sommes des errants. Il est urgent qu'on prenne conscience de ce que nous sommes dans cette situation difficile de notre monde en pleine mutation. Et cette mutation requiert des hommes et des femmes et des jeunes une présence d'esprit résolument tournée vers l'avenir, mais aussi consciente du présent, des risques du présent. Alors cette perspective que nous ouvre l'écrivain, c'est une perspective de confiance et de foi. C'est aussi la manière de Enzel, une ouverture qui peut nous étonner. Mais la foi doit toujours être un étonnement et non pas une répétition austère, triste, mais au contraire l'étonnement joyeux d'une découverte que l'on fait, comme nous le rappelait d'ailleurs Charles Péguy. Alors, ces hommes et ces femmes qui découvrent aujourd'hui Dieu sur des chemins différents, qui ne sont pas celles que l'on connaît habituellement, des chemins aux perspectives nouvelles qui apportent des dimensions inespérées à notre quotidien, un quotidien qui est fait de cette rencontre inouïe de l'autre, reconnu et estimé dans son altérité, pour qu'il nous éveille à notre propre altérité, ce qui est parfois méconnu. Prendre le temps de lire ces livres et bien d'autres livres, c'est découvrir des aspects méconnus de notre existence et nous enrichir ainsi dans l'aujourd'hui que nous vivons, les promesses d'un futur qui nous est déjà accordé.
Je vous propose à présent de découvrir un ouvrage également acheté récemment par la bibliothèque diocésaine et qui est un des textes fondamentaux de l'Église. Il s'agit du document édité par la Commission biblique pontificale dont le titre est « Inspiration et vérité de l'Écriture sainte ». Il est paru aux éditions du CERF en octobre 2014, il a donc aussi exactement 2 ans, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas encore reçu l'audience qu'il mériterait. On peut bien sûr admettre que, tout, comme tous les textes officiels de l'Église, il n'est pas d'une lecture très attrayante, en tout cas au premier abord. Non pas que le contenu serait inaccessible, mais c'est plutôt la façon très protocolaire de s'exprimer qui est assez pesante dans ces textes officiels. Mais je crois qu'il faut vraiment faire l'effort de dépasser cette lourdeur de style pour se plonger dans le texte qui est quand même important, puisqu'il traite des questions qui sont toujours d'actualité à propos de l'interprétation de la Bible. Pourquoi la Bible est-elle écriture sainte, par exemple ? Première question. Ou comment Dieu peut-il avoir inspiré la rédaction de ces textes ? Ou encore, comment peut-on encore accorder foi à la Bible alors que les scientifiques modernes ont montré qu'elle contient des inexactitudes historiques ? Et encore une question qu'il soulève, pourquoi les catholiques devraient-ils accepter de lire des passages de la Bible qui contiennent des récits de guerres sanglantes ou des paroles d'une violence incroyable, alors qu'ils croient en un Dieu d'amour ? Et puis encore, comment faire confiance à la Bible alors que différents passages de l'Ancien Testament et même des Évangiles se contredisent manifestement ? Alors, toutes ces questions, on les entend circuler de nos jours et elles éloignent de la lecture de la Bible, ou en tout cas, elles servent de prétexte pour éviter de la lire. Et c'est certainement à cause de cela que le pape Benoît XVI avait suggéré que l'on clarifie sérieusement ces notions d'inspiration et de vérité des Écritures. Mais c'est le pape François qui a inauguré les travaux de la commission biblique pontificale en précisant ce qu'il en attendait dans un discours où il revient sur la constitution Dei Verbum, donc de Vatican II, en particulier pour dire l'unité indissoluble entre la Sainte Écriture et la Sainte Tradition de l'Église. Le pape François rappelle, je cite, que tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Et un peu plus loin, c'est pourquoi l'une et l'autre, c'est-à-dire tradition et Écriture, doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Voilà donc qui semble être une sorte de rappel à l'ordre de la part du magistère en ce qui concerne le travail des exégètes modernes. Je cite encore le pape François qui dit « L'interprétation des saintes écritures ne peut être seulement un effort scientifique individuel, mais doit être toujours confrontée, intégrée et authentifiée par la tradition vivante de l'Église » pour préciser le rapport correct et réciproque entre l'exégèse et le magistère de l'Église. Fin de citation. Cette réflexion à propos des exégèses scientifiques actuelles est reprise et approfondie dans l'introduction de ce livre par le cardinal Müller, qui précise le sens du document de la Commission biblique pontificale en disant ceci. Ce document ne perd pas de temps à établir la vérité du texte biblique par des preuves extérieures à lui, celles que fourniraient des sciences considérées comme objectives, comme l'archéologie, la géologie, l'épigraphie, etc. Il examine soigneusement ce que chaque livre ou ensemble de livres bibliques affirme de sa propre vérité, de ce qu'il veut faire recevoir comme vrai et par conséquent vivifiant pour le lecteur qui veut bien le recevoir. Donc le cardinal Müller rappelle ici que la vérité de la Bible n'est pas de l'ordre de l'exactitude avérée des faits, car, dit-il, la Bible se soucie fort peu de décrire des faits objectifs. Elle n'a rien de scientifique, et surtout, je le cite un peu plus loin dans l'introduction du livre, « La Bible ne se préoccupe pas de donner des moyens de preuve extérieure, des moyens de vérification dont les hommes modernes sont pourtant friands. » Et il continue en expliquant ce qu'il a rencontré comme questions habituelles qui surgissent pour mettre en doute la Bible. Et je cite ces questions. « Abraham a-t-il vraiment existé ?» Ou une autre question. « Où exactement le peuple hébreu a-t-il franchi la mer Rouge ?» Encore une autre question. « Mais comment Jésus a-t-il marché sur les eaux ?» Voilà, donc il se moque un peu de ces questions de l'esprit scientifique en rappelant que ce n'est pas à ce type de questions que veut répondre le livre dont nous parlons, mais qu'il donne des pistes pour que l'on comprenne que la Bible est un livre saint, non pas parce qu'il serait sacré et intouchable, mais parce qu'il sanctifie ceux qui s'ouvrent à ces textes avec confiance, accepte de se laisser instruire et surtout étonner et déranger par eux. Et ceux qui en reçoivent, alors, un chemin de transformation personnelle qui vient de Dieu, puisque ce sont des écritures inspirées. Je vous rappelle le titre du livre, donc « Inspiration et vérité de l'écriture sainte », le titre complet qui a un sous-titre « La parole qui vient de Dieu et parle de Dieu » pour sauver le monde, de la Commission biblique pontificale. Donc vous trouverez ce livre également à la bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant à Chartres. Et je vous dis à présent au revoir chers auditeurs et à très bientôt.
Rien ne m'empêchera.